pour la CFDT, c'est clair, cette mobilisation, elle durera jusqu'à ce qu'on n'ait pas le report de l'âge légal de départ en retraite, à 64 ans ou à 63 ans.
Barcelone, c'est pas si loin. Je pense qu'il devrait écouter ce qui se passe dans la rue et dans les entreprises, plutôt que de s'éloigner. Peut-être qu'il a peur de la réalité.
Est-ce le prélude à une mobilisation qui peut faire vaciller la réforme des retraites? Ce premier jour de grève a bien sûr valeur de test, mais doit s'inscrire dans la durée pour espérer un quelconque changement. L'intersyndicale le sait, le gouvernement aussi. Nous serons dans le cortège dans un instant avec toutes nos équipes disséminées en plusieurs points du cortège parisien. Ce sera juste après le rappel des titres signé Mathieu Devez.
28% de grévistes à la mi-journée dans la fonction publique, des chiffres qui viennent d'être publiés par le ministère. C'est 5 points de moins par rapport à 2019 et le premier projet de réforme des retraites voulu par Emmanuel Macron. Thiriez propose d'embaucher 150 anciens salariés de la société de livraison de produits alimentaires Place du Marché, ex-Tout-Par-Gel. Sa récente liquidation judiciaire a laissé 1900 employés sur le carreau. Le spécialiste des surgelés Thiriez dispose d'un réseau de 180 magasins et 90 centres de livraison dans toute la France. En Nouvelle-Zélande, la première ministre annonce sa démission. Jacinda Ardern déclare n'avoir tout simplement plus assez d'énergie pour 4 ans supplémentaires. Au pouvoir pendant toute la pandémie, elle quittera ses fonctions d'ici le 7 février. Un successeur sera désigné par le Parti travailliste dans les 3 jours en attendant des élections prévues en octobre.
Merci beaucoup. Nous allons donc parler de cette mobilisation attendue à Paris avec un cortège qui s'était lancé il y a un peu plus d'une heure maintenant. Et on va évoquer cette actualité qu'on attendait depuis plusieurs jours déjà avec mes invités que je vous présente sans plus tarder. Bonjour Jean Messia. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Apollon. Karim Zeribi.
Bonjour Nelly.
Consultant, chroniqueur. Merci à vous également d'avoir fait le déplacement. Pascal Bito Panelli nous a rejoint. Merci. Expert en sécurité, vous allez nous être précieux. On espère quand même qu'il ne va pas se passer grand-chose aujourd'hui. On l'espère tous. Et puis Florian Tardif, pour couvrir l'actualité politique. On évoquera cette réforme au Parlement, bien sûr, dans un instant. Mais sans plus tarder, prenons la direction du cortège parisien, le cortège qui suit un parcours classique des cortèges de gauche, on va dire, qui s'élance de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation un petit peu plus tard cet après-midi. Nous sommes avec l'une de nos équipes, Jeanne Cancard, bonjour. Vous êtes en compagnie d'Olivier Gangloff dans le premier tiers, dirons-nous, de ce cortège au niveau du boulevard des Filles du Calvaire. Il a mis un petit peu de temps à s'élancer, il faut le dire. On sent que ça piétine encore place de la République. C'est sans doute le signe qu'il y a beaucoup de monde, une forte densité de population. Pour l'instant, a priori, rien à signaler. Racontez-nous un petit peu quels sont les mots d'ordre que vous entendez autour de vous.
Oui Nelly, alors déjà au niveau de la mobilisation, ce qu'on peut vous dire, c'est toujours difficile d'estimer à vue d'œil, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées ici. Alors vous l'avez dit, le départ a été un peu long à se faire, ça a un petit peu stagné, mais comme vous le dites, ça traduit finalement une forte mobilisation. C'est évidemment ce qu'espèrent les principaux syndicats présents ici, principaux syndicats qui sont tous unis dans cette mobilisation. C'est aussi le caractère un petit peu exceptionnel de cette manifestation. Alors évidemment, les manifestants qu'on interroge nous disent qu'ils sont là pour protester contre cette réforme des retraites, mais il y a aussi plus globalement d'autres luttes qui convergent lors de cette journée de jeudi. On nous parle aussi évidemment beaucoup du pouvoir d'achat et puis plus simplement il y a des gens qui nous disent moi je viens ici pour dire non à la politique générale du gouvernement. Alors pour l'instant c'est une manifestation qui se déroule plutôt dans le calme. Il y a évidemment quelques éléments radicaux qui sont présents. Les services de renseignement avaient averti, c'est ce qu'il y a de plus classique lors de ces mobilisations qui s'annoncent assez intenses, assez denses. Il faut savoir qu'il y a eu quelques fumigènes qui ont été lancés, quelques pétards, mais pour l'instant, ça se déroule dans le calme. Et puis, ce qu'il faut aussi noter, ce qui nous marque aussi, c'est de voir que c'est une manifestation plurigénérationnelle. C'est-à-dire que vraiment, vous avez des personnes qui, à la fois, sont déjà à la retraite, d'autres qui vont bientôt y arriver, en fonction de cette réforme ou non. Et puis aussi, il y a la jeunesse qui est descendue aujourd'hui dans la rue pour ses aînés, puis pour elle, pour plus tard.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'on se mobilise aussi du côté des lycées. C'est peut-être un peu plus inédit, même si ça s'est déjà vu par le passé. Y compris d'ailleurs pour la réforme des retraites. Je crois qu'en 2019, il y avait une forte mobilisation de ce point de vue. Alors parlons de la mobilisation en région. Vous le savez, on a toujours un petit peu plus de recul parce que les régions défilent le matin. Donc on a déjà des données chiffrées avec toujours ce différentiel, bien sûr, entre les données transmises par les syndicats et celles transmises par le ministère de l'Intérieur. Alors voilà ce que ça donne. Toujours pareil, hein, il faut tenir compte de ces fourchettes qui fluctuent. À Toulouse, a priori, d'un point de vue syndical, il y aurait eu 55 000 manifestants. manifestants ce matin. 35 000 selon la police. La préfecture pour Lyon signale 23 000 personnes. Et puis en tout, on estime qu'on pourrait avoir entre 550 000 et 750 000 participants aujourd'hui à cette mobilisation. Jusqu'à 80 000 a priori attendus à Paris. Karim Zeribi, quand vous voyez cette foule-là, cette image est très parlante, très impressionnante à vrai dire. Ça vous inspire quoi ? Pour l'instant, vous vous dites... Le pari pourrait être réussi pour l'intersyndicale ?
Oui, il y a une mobilisation, on n'en a pas douté. D'abord, quand on voit le nombre de grévistes au sein de l'éducation nationale, dans les transports, dans les raffineries, donc même si ce sont des bastions, si je puis dire, donc dans ces moments-là, il y a une très forte mobilisation. Il n'y a quasiment pas de train intercité à la SNCF. Donc hier, on avait un conducteur de train qui nous disait que dans son dépôt, c'est 97% de grévistes. Donc évidemment, il va y avoir une mobilisation. Moi, je me réjouis d'entendre notre correspondante qui nous dit que ça se passe plutôt bien sur le terrain. Ça veut dire qu'on va parler du motif de cette mobilisation et pas des casseurs. On parle trop souvent des casseurs qui annihilent les mots d'ordre des manifestants. Donc là, c'est bien qu'on se cantonne sur les mots d'ordre, la retraite, l'inquiétude, le mécontentement, la colère des salariés face à cette réforme. Donc ça, c'est important. Il y a un gros dispositif policier, notre spécialiste pourra en parler, 10 000 fonctionnaires de police mobilisés sur le territoire national. Un cordon de sécurité assuré par les syndicats, c'est important parce que ça collabore, ce qui n'est pas le cas pour les gilets jaunes, et c'est pour ça aussi que ça partait peut-être un peu en biborine dans tous les sens. Donc moi je dis, il y a du monde, ça semble réussi, ça se passe bien, tant mieux, on va pouvoir parler du contenu de cette réforme et pas parler des casseurs, donc qui avaient toujours la part belle dans les manifestations ces derniers temps. Donc je crois que le gouvernement peut s'attendre à d'autres mobilisations dans les jours qui viennent, parce que force est de constater que derrière une réussite en termes de mobilisation sociale, souvent on continue le combat et on va au-delà tant que le gouvernement ne flanche pas ou ne réajuste pas son approche.
Allez, on va retourner dans le cortège puisqu'on a un invité témoin, un manifestant, Aurélien en l'occurrence, qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions. Bonjour, merci d'être en direct grâce à Augustin Donadieu pour notre équipe sur place. Vous êtes pompier de profession. Je ne sais pas si vous m'entendez, si on peut le voir apparaître à l'écran. Vous êtes pompier de profession, ça y est, je le vois. Qu'est-ce qui a présidé à votre décision de descendre dans la rue? On a beaucoup parlé de la mobilisation des forces de l'ordre, un peu moins de celle de votre corporation. En quoi ça vous inquiète, cette réforme, aujourd'hui?
Alors, étant sapeur-pompier professionnel depuis plus de 23 ans, il était de mon devoir que le service me laisse rejoindre les rangs de la manifestation afin de les représenter. Je ne suis pas syndicaliste, je ne suis pas syndiqué, je suis sapeur-pompier professionnel et je représente l'ensemble de mon département, de ma caserne en région parisienne. Et il était de mon devoir de venir représenter le corps des sapeurs-pompiers en général et crier entre guillemets mon mécontentement par rapport à cette réforme de la retraite que le gouvernement veut établir prochainement à l'Assemblée.
J'aimerais qu'on parle de votre situation personnelle, parce que dans ce genre de mobilisation, il y a toujours des cas particuliers, bien évidemment. En quoi ça vous inquiète à titre personnel? Est-ce que vous faites partie de cette génération qui est directement impactée aussi avec, vous savez, les fameuses tranches d'âge qui ont été fixées? Est-ce que vous vous dites, je fais une profession à risque et donc cette réforme ne devrait pas me toucher au premier chef?
Bien sûr que si, cette réforme va me toucher de plein fouet, entre guillemets, puisque je rentre dans les années qui vont subir cette retraite et je vais devoir exercer ce métier compliqué, psychologiquement, physiquement, la journée, la nuit, les week-ends, les jours fériés, au même titre que mes collègues de la police nationale, de la gendarmerie, hospitaliers, etc., etc. Et donc, du coup, c'est beaucoup, beaucoup de contraintes. Le métier de sapeur-pompier est une abnégation, un dévouement au quotidien, porter secours. C'est le dernier rempart de l'État face à tout ce qui s'est passé depuis le Covid, l'inflation, etc. Et je peux vous assurer que la population nous remercie chaque jour pour tout ce que nous faisons. Et travailler 2 années de plus dans ce métier très physique, très psy, on voit l'évolution de notre population aujourd'hui qui évolue et prendre entre guillemets 2 ans de travail supplémentaire, ce n'est pas possible. Il faut absolument que Monsieur Macron et que Madame Borne, avec le gouvernement que je respecte totalement, mais il faut qu'ils fassent marche arrière. Ce n'est pas possible. Il faut une égalité. Et cette réforme de la retraite est inégalitaire. Et là, il va falloir prendre la pénibilité de chacun, étudier. Et ça, c'est leur travail, c'est leur boulot. Moi, je fais le mien. À eux de faire le leur.
Merci beaucoup. Fort témoignage, en effet. On remercie Jules Bedeau et Augustin Donadieu, je le répète, qui ont permis la réalisation de ce duplex. Merci beaucoup. Excellente journée. Je vous souhaite une bonne manifestation. Cet homme, Jean Messia, il incarne parfaitement tout ce qu'on dit à propos des notions de pénibilité. Il l'a bien résumé. À chacun son boulot, aux autres de réfléchir aussi pour nous, parce qu'on ne peut pas être à la merci de ce que décident nos gouvernants.
Alors ça, c'est vrai. Bon, maintenant, on ne peut pas dire que le gouvernement n'ait pas pris en compte la pénibilité. Il ne l'a pas suffisamment pris en compte, ça c'est sûr. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que, pour en revenir à cette mobilisation, ce qui est d'ailleurs le sapeur-pompier qui parlait était... assez emblématique, si vous voulez, du fait que cette mobilisation n'est pas une mobilisation exclusivement sectorielle ou corporatiste. C'est-à-dire que pour la première fois depuis un certain nombre d'années, nous avons une mobilisation générale de plusieurs secteurs de la société, que ce soit la SNCF, la RATP, les raffineries, les sapeurs-pompiers, les policiers. Donc il y a une agrégation, si vous voulez, de métiers qui font aujourd'hui grève, qui rend cette mobilisation effectivement un peu exorbitante du droit commun. Le deuxième enseignement, c'est que depuis la crise des Gilets jaunes, tout le monde avait pensé que ça ringardisait finalement la mobilisation syndicale et que désormais les mobilisations 2.0, c'était des mobilisations citoyennes, spontanées, sans leader, sans entité organisatrice. Bon, là, avec cette mobilisation-là, les syndicats semblent reprendre en quelque sorte la main sur les conflits sociaux. Après, si vous voulez, je pense que le gouvernement a quand même eu une imprudence assez incroyable de maintenir cette réforme qui cristallise et agrège les mécontentements, alors même que le contexte est déjà très très difficile pour les Français, que ce soit en termes d'inflation, après la crise Covid, il y a quand même un malaise en France, un malaise sécuritaire, un malaise identitaire, un malaise social, un malaise par rapport au pouvoir d'achat. Je ne comprends pas cet entêtement, si vous voulez, de cette réforme qui, à mon avis, et je termine par là, qui, à mon avis, à la fois paramétrique, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une réforme systémique, c'est une réforme totémique, dans la mesure où le gouvernement veut en faire un totem, de son idéologie, et c'est une réforme narcissique dans la mesure où l'entêtement d'Emmanuel Macron à vouloir la maintenir, c'est aussi une façon de dire j'ai raison et allez vous faire voir.
Florian, il vient d'évoquer les membres du gouvernement. Il faut préciser qu'aujourd'hui à Barcelone, il y a Emmanuel Macron accompagné de 9 de ses ministres de plein droit, enfin de plein exercice. Deux secrétaires d'État, il me semble, en plus. C'est important de le préciser parce qu'une question sur les retraites va lui être posée dans un instant. D'ailleurs, on la prendra peut-être en direct. Il ne peut pas éluder ce qui est en train de se passer dans son pays, quoi qu'à distance. D'ailleurs, ça a poussé les membres de ce cortège et plusieurs représentants syndicaux à ironiser sur cette observation à distance.
Sur le fait qu'il est à 800 km des manifestations. Il est actuellement à Barcelone. Alors, il faut préciser que c'est une date qui a été arrêtée il y a longtemps pour l'organisation de ce 27e sommet franco-espagnol, que ce sont les Espagnols qui ont organisé ce sommet, que ce sont les Espagnols qui ont choisi cette date, que cette date a été choisie bien avant même que les syndicats n'arrêtent ce 19 janvier comme étant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En revanche, effectivement, c'est un signal envoyé malgré lui qui est mauvais et qui peut alimenter la contestation qu'on voit actuellement dans les rues, pas seulement de la capitale, puisqu'on a pu voir cette dernière, que ce soit à Marseille ou à Toulouse en matinée. Oui, la question va lui être posée. Après, Emmanuel Macron s'est fixé une règle depuis qu'il est à la tête de ce pays, c'est de ne pas répondre aux questions nationales quand il est à l'extérieur des frontières du pays. Il lui est arrivé de déroger à cette règle lors... Parce que, par exemple, il y a eu des manifestations violentes lors des nombreuses mobilisations des Gilets jaunes. C'était en décembre 2018. Il était en Argentine. Il avait répondu notamment au saccage de l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'il va répondre sur cette première journée de mobilisation depuis Barcelone ? pas sûr, tout simplement parce qu'on estime au sein de son entourage qu'il ne faut pas personnifier la réforme des retraites, c'est-à-dire il faut tenter d'éviter d'associer la figure du président de la République à cette dernière, compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières années.
Eh bien, on pourra le vérifier dans quelques minutes, parce que nous y serons, on verra s'il répond par cercle concentrique, enfin, s'il élude un peu la question ou s'il l'aborde de plein fouet. Maureen Vidal, Fabrice Elsner, dans un autre point du cortège parisien. Bonjour Maureen. Alors vous êtes a priori dans ce qu'on appelle la tête du cortège, au tout début. C'est là en général que prennent place les responsables syndicaux, le fameux carré syndical. Comment ça se passe? Que vous ont-ils dit au départ, ces responsables syndicaux, ces leaders syndicaux?
Alors, pour le moment, les leaders syndicaux se trouvent juste derrière. En fait, le groupe que vous voyez, c'est un groupuscule vêtu de noir et cagoulé, vraisemblablement des Black Blocs qui provoquaient il y a quelques instants les forces de l'ordre. Ils menaçaient les policiers également il y a quelques instants. Pour le moment, pas de heurts, mais des mortiers ont explosé, des fumigènes, une poubelle en feu, des pétards sur place également viennent d'éclater. Ils continuent d'avancer, ils bloquent le cortège. En haut, pour le moment, les syndicats attendent de pouvoir avancer. Ils scandent anticapitaliste et brandissent une banderole noire et blanche taguée Black Lines, et le combat continue. On revient vers vous en cas de débordement.
Eh bien, je me tourne naturellement vers notre expert en sécurité, Pascal Bitopalelli, identifiable immédiatement, vêtu de noir, les fameux parapluies aussi qui sont déployés. On avait dit qu'il y avait un risque, il y avait 1000 individus qui étaient identifiés. A priori, ce matin, on en aurait repéré une soixantaine. Pour l'instant, ça vous paraît sous contrôle ?
Alors écoutez, cette première photographie instantanée que je vois m'appelle à plusieurs constatations.
Oui.
La première, c'est qu'on a beaucoup de monde, une grosse densité en ordre public, un espace public augmenté. Une situation qui pour le moment est calme, mais lorsque j'analyse un peu plus profondément vos images, je vois derrière, dans la tête de cortège et derrière les banderoles, comme vous l'avez précisé au niveau des parapluies, des individus, on va dire, au niveau de l'ordre public, qu'il faut suivre attentivement.
Vous trouvez que c'est un regroupement qui est déjà un peu concernant, un petit peu inquiétant ?
Il faut le suivre, il faut l'avoir dans le radar, et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous l'avez vu, Karim l'a dit tout à l'heure, dès lors qu'on s'attend par anticipation avec la réalité, celle-là, à une très forte mobilisation, il faut que le déploiement et le calibrage des effectifs soient très conséquents. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour l'instant, la situation...
Je vous coupe, on va suivre ça avec attention, mais on part à Barcelone pour écouter la fameuse question retraite posée à Emmanuel Macron.
Convaincre l'opinion. Et par ailleurs, que dites-vous aux Français aujourd'hui qui sont dans la rue, qui manifestent, et à certains d'autres qui réclament désormais un référendum sur la réforme des retraites? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je pense qu'il est bon et légitime que toutes les opinions puissent s'exprimer. C'est le principe même d'une démocratie. Et qu'en vertu de notre Constitution, le droit de manifester puisse s'exercer comme il s'exerce dans toutes les démocraties de notre continent et ailleurs. Et je fais confiance aux organisateurs de ces manifestations pour que cette expression légitime de désaccord puisse se faire sans créer trop de désagréments pour l'ensemble de nos compatriotes et évidemment sans débordement, ni violence, ni dégradation. Je pense qu'il y a, comme vous le dites, dans une démocratie des règles et un bon fonctionnement. Il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il n'y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée et au Sénat de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Et il suffit de regarder partout ailleurs en Europe et de voir que la France s'est un peu décalée. Et que si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Dans des pays qui vivent de plus en plus longtemps, où nous avons créé des systèmes justes et forts qui reposent sur l'égalité entre les générations, à des moments où vous avez de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité.
Jordi Armenteras de RACU.
Allez, petit débrief, Florian Tardif, elle est pour vous celle-là. Donc, bon.
Il a dérogé à la règle.
Il s'est exprimé sur une question il l'a pas évacué.
Nationale. Il n'a pas éludé effectivement le sujet. Il a beaucoup insisté sur la démocratie, c'est-à-dire que bien évidemment, la démocratie assure à ces manifestants la possibilité de protester aujourd'hui dans la rue, mais il a insisté sur le fait que l'élection, lors de l'élection présidentielle, effectivement, il avait présenté la réforme des retraites de manière assez claire, en parlant de reculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. 65 ans avait même été évoqué. Le président de la République s'était assez vite rendu compte que lors de ses différents déplacements durant la campagne présidentielle, cet âge de 65 ans était un âge qui n'était pas accepté par l'ensemble de la population. L'âge de 64 l'était difficilement, mais l'âge de 65, c'était catégoriquement non. Après, il a évoqué également les élections législatives. Il parle peut-être un peu vite puisqu'il ne dispose plus de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, peut-être à cause de cette réforme des retraites qu'il avait évoquée durant la campagne présidentielle.
On parlait de ces éléments perturbateurs tout à l'heure que vous avez clairement identifiés, Pascal. J'aimerais qu'on regarde cette image. C'est une de nos équipes à nouveau dans le cortège. Vous voyez qu'il y a un peu de tension, un petit peu de mouvement de foule. Et il semblerait que de premières tensions se fassent jour dans ce cortège. Alors on est à un endroit a priori différent de celui aperçu tout à l'heure, mais vous voyez que ça bouge beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire comme ça à première vue ?
Ça m'inspire que chaque manifestation est un cas d'espèce et qu'on a, quand on a, je dirais, une tension au niveau des manifestants, déjà parce qu'ils sont anxieux, parce qu'il y a, je dirais, un patchwork de soucis, d'inquiétudes, on a beaucoup de chance que lors de la manifestation, on ait des points de tension, on ait des points d'accrochage en espérant que ça s'arrêtera à ce niveau.
Vous voyez donc les forces de l'ordre qui sont en mouvement, en action, voilà. Hein, le long de ce boulevard avec des fumigènes qui sont en train d'être lancés. Là, on est dans une...
Le niveau de tension zéro n'existe pas dans une manifestation de cette ampleur.
Absolument.
Donc, quand on a presque 1 million de personnes dans la rue, il est naturel qu'il y ait des moments de tension, à la fois avec des manifestants parfois en colère, mais surtout avec des fauteurs de troubles qui ne sont pas des manifestants sincères et qui, eux, veulent profiter des mouvements de foule pour s'infiltrer, pour casser des commerces, casser l'immobilier urbain, casser du policier aussi, s'ils en ont la possibilité, dans des perpendiculaires où ils seront peut-être en nombre supérieur. Donc c'est assez normal. Après, on pourra faire le bilan dans quelques heures. Moi, je reste quand même convaincu que globalement, cette manifestation va être maîtrisée à la fois par nos forces de l'ordre, des gendarmes mobiles, des
CRS, par les services syndicaux.
Des patrons de syndicats qui ont fait en sorte d'avoir des services d'ordre importants. Donc, je pense que les uns et les autres vont tout faire pour que ça fonctionne bien.
Mais néanmoins, j'aimerais quand même qu'on s'attache à cette image parce que c'est la première visible de quelque chose qui ne se passe pas très bien avec ces forces qu'on voit reculer. Régine Delfour, vous êtes aux premières loges, boulevard Beaumarchais. C'est là que ça se passe en ce moment. Commentez-nous ces images que vous apercevez.
Oui, Nelly, écoutez, on est effectivement boulevard Beaumarchais. C'est une compagnie d'assurance en fait, qui a été prise pour cible. Donc les manifestants vêtus de noir ont commencé à taper, à essayer de rentrer, de mettre le feu. Après, ils ont été aussi... en direction des journalistes, puisqu'ils nous cherchaient. Donc les forces de l'ordre sont arrivées assez rapidement et on a commencé à voir les premiers affrontements. On voyait des fumigènes qui étaient lancés aussi sur les forces de l'ordre. Là, alors, le problème, c'est qu'il y a énormément de monde ici. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de familles. Il y a tellement de monde qu'il y a même plus... les gens sont sur les trottoirs, massés sur les trottoirs, sur la route. Et là, ce sont déjà les premières tensions qui émaillent de cette manifestation, Nelly.
Merci beaucoup. On les voit, ces images. On va y rester dessus, hein, bien sûr. Pascal Bitopanelli, les voici, ces hommes en noir qui se livrent, ça y est, là, ouvertement à des provocations contre les forces de l'ordre. On parle de quoi, là ? Il y a bien une cinquantaine, une soixantaine d'individus, quand même.
Oui, facilement. Je pense qu'il va y avoir des groupes dispersés qui vont, aujourd'hui, qui ont déjà pénétré la manifestation et qui vont, sur les latéraux, provoquer les forces de l'ordre, faire de la dégradation, de la casse, faire monter la tension, donc ce qui nécessite, on le voyait il y a un instant sur vos images, démonter du lacry par les gendarmes mobiles de manière à remettre de la distance, essayer d'apaiser, de maîtriser la situation. Et ce n'est que le début, apparemment.
Oui, et puis surtout, on parle souvent de manifestations qui, lorsqu'elles se dispersent, deviennent violentes. Là, on en est quand même qu'à une heure de défilé. Jean Messia, petit commentaire.
Oui, moi, je suis toujours très surpris, si vous voulez, que toutes les manifestations qui sont hostiles au gouvernement, on assiste à des débordements et des violences. Par contre, toutes les manifestations qui sont... le dérapage pourrait gêner le gouvernement, là, elles sont maintenues en sécurité. Par exemple, au moment du match France-Maroc, il y avait quasiment le même nombre de policiers qui avaient été mobilisés que pour cette manifestation-là. Il s'est à peu près rien passé. Expliquez-moi. Alors, on nous a dit qu'il y avait eu des arrestations préventives, notamment des personnes de l'ultra-droite qui avaient été arrêtées avant même qu'elles ne passent à l'acte, sans qu'on démontre qu'elles soient passées à l'acte. Là, je ne comprends pas pourquoi les Black Blocs, qui sont identifiés, auxquels on a le droit dans toutes les manifs, au moment des Gilets jaunes, tous les samedis, ils étaient présents. Donc, ce sont des personnes qui sont identifiées par le pouvoir. On sait qui ils sont fichés. Quand ils sont étrangers, on peut les interdire d'arriver sur le territoire et rien n'est fait. Alors, évidemment, ces images que nous voyons, qui sont sous nos yeux actuellement d'une manifestation qui dégénère, évidemment, ça jette le discrédit sur qui ? Qui a intérêt à ce bazar ? Eh ben, c'est le gouvernement pour montrer qu'en fait, c'est la chienlit. Ces délinquants qu'on appelle les Black Blocs, on les laisse faire de manière un peu complaisante, même si les forces de l'ordre ont évidemment l'ordre de les canaliser, mais quand même, on ne les a pas empêchés d'arriver.
Karim Zeri, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, on va le laisser vous répondre. Allez-y.
Non, mais moi, je ne peux pas m'inscrire dans le propos de Jean Messia. Pascal, qui connaît les questions de sécurité mieux que nous tous.
Première charge, juste je commente l'image, voilà, première charge.
Pour en avoir parlé avec des fonctionnaires de police, ils vous disent tous. Les spécialistes de la lutte contre ces groupuscules dangereux d'extrême droite, d'extrême gauche, que les Black Blocs ne sont pas organisés comme les groupes d'ultra-droite qui sont en association, identifiés, identifiables, qui sont infiltrés, qu'on peut suivre et donc qu'on arrête de manière préventive. Là, c'est souvent des gens qui ne se réunissent quasiment jamais, qui n'ont pas d'association, c'est les réseaux sociaux. Ils vont déposer des armes 48 heures avant sur le chemin de la manifestation parce qu'ils savent effectivement qu'ils risquent d'être fouillés. Donc, il est très difficile de les prendre en flagrant délit en amont. Donc, c'est souvent pendant la manifestation qu'on arrive à les arrêter. En revanche, si Jean Messia posait le sujet, mais il ne l'a pas fait, de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les arrête? Est-ce qu'on arrive à en assigner à résidence durablement pour qu'ils ne reviennent plus jamais dans les manifestations? Là, je pense qu'on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. On ne le fait pas suffisamment.
Pascal Bito-Panelli, est-ce que vous faites, vous, un distinguo, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, en termes d'organisation, entre les membres d'extrême droite et ces groupuscules d'extrême gauche?
Alors, il y en a une, il y en a toujours. Si vous voulez, le Black Bloc est plus difficile à travailler au niveau du renseignement parce qu'il est beaucoup dans l'horizontalité. Ça a été dit par Karim, c'est vrai. Il y a peu de leaders, il y a peu de hiérarchie. C'est une nébuleuse avec des gens qui se retrouvent par des réseaux, par un groupe d'affinité, par une agrégation spontanée, et qui souvent sont d'origine multiforme, mais pour la plupart, qui sont inconnus, qui n'ont pas d'antécédents judiciaires, et qui sont socialement et intellectuellement assez bien intégrés, très organisés. On a pour certains des professionnels de la guérilla, qui sont des activistes de mouvances libertaires et anarchiques, qui ont une technique de guérilla, j'y rentrerai plus en profondeur tout à l'heure. Et il est vrai qu'au niveau du travail de renseignement, tout particulièrement de l'incapacitation sélective, c'est-à-dire de les bloquer avant, c'est assez difficile pour les services de le faire.
C'est assez incroyable. Alors, si vous voulez que les gens soi-disant d'ultra-droite, qui n'ont jamais perturbé la moindre manif, eux, on sait les identifier. On sait où ils sont, qui ils sont, où ils habitent, alors qu'ils ne se montrent jamais, on ne les voit pas. Et là, les Black Blocs, qui sont quand même des récurrents, c'est toujours les mêmes personnes, on a même trouvé leur profil sociologique, on a dit que c'était enfants de grandes familles, etc. Je ne comprends pas pourquoi on ne les identifie
Jean
pas
Messia,
et on
s'arrête pas avant. Si vous voulez, on va s'attacher aux images parce qu'une de nos équipes est sur place, on ne voudrait pas aussi les mettre en danger non plus tant qu'ils peuvent s'exprimer librement. Jeanne Cancard, vous êtes non loin de ce qui se passe, on voit ça à l'image, les premières charges aussi des forces de l'ordre et cette situation qui est en train d'être... un petit peu hors de contrôle maintenant.
Oui, Nelly, on ne peut plus du tout parler d'une ambiance bonne enfant. Je ne sais pas si vous le voyez très bien à l'image, mais notre image, elle est un petit peu rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que les Black Blocs, ceux qui s'apparentent à des Black Blocs, c'est bien, nous ont tagué la caméra. À chaque fois, c'est récurrent dans les manifestations. Ils nous empêchent de les filmer au moment des confrontations, au moment des heurts qui éclatent entre ces Black Blocs. Il faut bien préciser que ce ne sont pas des manifestants. Ce sont des personnes qui sont clairement identifiées, tout vêtues de noir, cagoulées, qui sont clairement là pour, eh bien, détruire soit les devantures de magasins, la plupart du temps, des banques d'assurance, les restaurations rapide comme les fast-food, les McDonald's, tout ce qui va s'impérenter finalement au capitalisme. Alors on a vu des premières heures, on a vu les premières charges des policiers, dont un CRS tout à l'heure qui était à terre devant nous. Alors la situation, elle s'est largement entendue, et c'est justement ce que craignaient les manifestants, qui nous disaient ça va finalement enlever le vrai message, le message qu'on est venu faire passer contre cette réforme des retraites. Là on peut parler pour l'instant de ce qu'on voit de plusieurs dizaines d'éléments radicaux, c'est aussi le nombre qu'avait prévu anticipé les renseignements, mais là on peut parler d'une tension qui monte très fortement avec plusieurs charges et évidemment énormément de gaz lacrymogène. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué de s'exprimer dans ces moments-là.
Et on compte sur vous et sur Olivier Gangloff bien sûr pour prendre vos précautions et vous tenir quand même à bonne distance, même si on apprécie évidemment votre témoignage filmé. Pascal Bito-Panelli, On parlait de ces éléments, de ces gens qui constituent ce qu'on appelle communément le Black Bloc. Mm-hmm. Vous nous dites que ce sont des gens qui sont par ailleurs insérés dans la société, qui souvent ont des professions tout à fait banales hein, pour certains. Mm-hmm. Parlons de cette idéologie qu'ils nourrissent, ou plutôt absence d'idéologie, cet anarchisme qui est le leur. Il naît à un très jeune âge, et après on se livre à une sorte de double vie. Il y a une forme de duplicité dans leur vie, dans leur quotidien.
Oui, certains écrivains spécialisés parlent de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On a des garçons qui peuvent être des cadres supérieurs dans une société et qui, dans cette philosophie qui est la suivante, c'est très simple, faire une manifestation pacifique ne sert strictement à rien. Je suis dans la propagande par l'action. Les mots ne sont pas efficaces. Moi, je vais prouver contre le capitalisme et contre l'État, qu'en cassant, j'existe et je donne ma parole, et qui sont des gens qui sont différents dès lors qu'ils sont dans ce, je dirais, un petit peu dans ce costume à la Mad Max.
Oui. Les commerçants se sont préparés. On voit bien que les enseignes qui sont prises pour cible sont clairement identifiées pour ce qu'elles représentent, pour la symbolique qui est la leur, mais quand même, beaucoup de commerçants se sont prémunis sur le parcours et ont baissé le rideau, ce qui veut dire que normalement, on devrait avoir une casse quand même somme toute limitée. Puis surtout, on parlait du degré de préparation de la police, Karim Zeribi. On n'arrête pas de nous dire depuis 3 jours, on a fait des fouilles préventives sur le parcours, on a enlevé tout ce qui était matériel de projectiles sur les chantiers, le matériel urbain. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai aperçu un jeune homme avec, vous savez, une bouteille de vin, visiblement qu'il avait été récupéré dans une poubelle à verre. Bon, on peut pas tout faire et tout verrouiller à l'avance non plus.
Bien sûr que non, Nelly, mais Pascal l'a dit, on a affaire à des gens qui sont difficilement identifiables en amont, qui sont mobiles, qui sont des professionnels de la guérilla. Donc on peut mettre effectivement un nombre important de fonctionnaires de police en charge de l'ordre public. Encore une fois, ils peuvent pas avoir les yeux partout et occuper le périmètre au millimètre près. Vous avez quasiment 1 million de personnes dans la rue. Je veux dire, aujourd'hui, 10 000 fonctionnaires en charge de l'ordre public, c'est beaucoup, mais c'est relatif quand même au nombre de personnes dans la rue. Et c'est important parce que ce profil-là, c'est des gens de bonne famille, qui n'ont pas de difficultés sociales, qui n'en ont rien à faire de la réforme des retraites en réalité. Comme ils n'en ont rien à faire de toutes les manifestations à caractère social, parce que ils n'ont pas de problème de fin de mois, hein, ces petits bourgeois anarchistes. En revanche, ils veulent casser du flic, ils veulent casser tout ce qui représente, j'allais dire, le capitalisme, alors qu'ils en sont les enfants et le produit. Donc moi, je pense à ces commerçants, ils vont perdre une recette aujourd'hui, parce que déjà, c'est la grève et c'est pas facile quand on est commerçant aujourd'hui, on le sait. Et deuxièmement, qui peuvent se faire casser leur devanture de magasin. Ça fait quand même beaucoup pour des gens qui ne roulent pas sur l'or, qui créent des emplois, qui représentent le commerce et l'économie de proximité par excellence dans notre pays. Moi, je pense à eux, je les soutiens plus que jamais dans ces moments difficiles.
Pour la lutte des classes, on reviendra, quoi.
Hein. Exactement. Okay. Je veux dire, il ne faut pas leur raconter
moi,
à eux.
Si vous voulez, les éléments de langage et la théorie qui consiste à dire les black blocs, on ne sait pas qui c'est, ils tombent du ciel, ils viennent, ils sont non identifiés, on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les empêcher d'agir. Moi, j'y crois pas. Tout simplement pas. D'abord parce que, encore une fois, ces gens ont X manifs à leur actif. Ils ont un nombre de manifestations incroyables à leur actif où ils ont saccagé, ils ont cassé, ils ont brûlé, ils ont tabassé du flic. Beaucoup d'entre eux ont été déférés devant les juges. Donc, ils sont identifiés, en tout cas pour une grande partie d'entre eux. Donc, s'ils reviennent dans les manifs, c'est bien qu'il y a une volonté de ne pas les stopper, de ne pas les arrêter. Voilà. Il y a une forme de complaisance, peut-être implicite, à les laisser agir en toute impunité, à attendre qu'ils soient au cœur de la manif pour mettre le bazar et pour avoir ensuite des images en disant voilà ce que c'est, les manifs que vous soutenez, bah c'est du désordre, c'est de la violence, c'est des feux, c'est des flics qui sont tabassés, etc. Je pense que si le gouvernement veut les arrêter, il peut les arrêter, mais il ne le veut pas.
Sandra Buisson nous a rejoint. Je vous présente quand même, merci. Sandra Buisson du service police-justice nous a rejoint. Pour rebondir sur ce qu'il dit, on les identifie, les black blocs?
Alors, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont déjà eu maille à partir avec la police, qui ont été arrêtés et qui sont passés en justice, parfois avec la condamnation, ils ont une interdiction de manifester. C'est notamment ces profils-là qu'ont tenté de retrouver les nombreux policiers qui ont été dépêchés sur des contrôles depuis hier, détecter les personnes qui étaient interdite de manifester. Ça se fait en judiciaire, quand vous avez été interpellé et qu'ensuite on vous a jugé en justice. Les interdictions administratives de manifester, c'est-à-dire préventives, oui, prises par le préfet, ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ça faisait partie des propositions de la fameuse loi Casseur qui avait été proposée au printemps 2019. Quel était l'objectif? Donc c'était de pouvoir interdire de manifester à une personne qui présentait une menace pour l'ordre public, qui avait commis des atteintes graves à l'intégrité physique, d'où des dommages importants aux biens. Ça a été censuré parce qu'il y avait une latitude trop large pour les préfets pour apprécier les motifs susceptibles de justifier cette interdiction. Donc il n'est pas possible, en amont des manifestations, d'aller chercher les individus qui auront été repérés éventuellement par le renseignement avant qu'ils ne passent à l'acte, puisque les interdictions administratives ne sont pas possibles.
Pour des questions
ensuite,
administratives.
Ceux qui passent à l'acte dans les manifestations peuvent être arrêtés sur le vif, ils peuvent être aussi arrêtés a posteriori, et notamment ceux qui ont, par exemple, saccagé l'Arc de Triomphe, ont été interpellés plusieurs mois plus tard par les cellules qu'on appelait les cellules gilets jaunes, mais toutes les enquêtes judiciaires menées qui vont à long terme identifier les individus qui ont pu commettre des dégradations.
En l'espèce aujourd'hui, combien d'éléments perturbateurs attendus selon vos sources?
Alors il y avait 200 à 400 casseurs attendus qui pouvaient être des membres de l'ultra-gauche ou des ultra-jaunes, ceux qui étaient anciennement les gilets jaunes et qui ont basculé dans la violence. Pour l'instant, on ne sait pas combien ils sont dans cette manifestation. Un de nos journalistes qui était un peu plus tôt à 15h30 au milieu du boulevard Beaumarchais nous disait qu'ils étaient une centaine et qu'ils étaient en train de procéder à mettre des graffitis sur les banques, là, cible habituelle de l'ultra-gauche. Là, on a vu de nouveau à 15h45, cette fois avec des jets de projectiles sur les forces de l'ordre et une intervention, vous l'avez vu aussi en direct, des forces de l'ordre pour disperser ces individus. À 16h, nouvelle tentative de dégradation, cette fois de la matmut avec nouvelle interpellation des forces de l'ordre. Et vous voyez ces forces de l'ordre qui interviennent régulièrement pour interpeller le plus vite possible ceux qui commettent des dégradations ou qui commettent des violences.
Merci. Jeanne, vous êtes sur ces images-là. La situation est en train de s'envenimer. On voit les forces de l'ordre qui font corps, qui font bloc entre elles. Hein.
Oui, exactement. Vous voyez les pétards qui sont envoyés juste devant nous à l'instant, avec des projectiles qui sont pris un petit peu partout. Ça peut être des bouts de bois qui restent de travaux, des bouteilles en verre, parce qu'il y a beaucoup de poubelles de verre. S'en sert de projectiles pour les envoyer contre les forces de l'ordre qui répondent évidemment. Il y a eu plusieurs charges sous nos yeux et pourtant ça démotive pas évidemment par définition ces ultras qui sont présents, on peut le dire maintenant, par centaines et qui finalement, c'est ce que nous disent les manifestants, gâchent la manifestation et les vraies raisons de cette mobilisation. Vous avez énormément de gaz lacrymogène aussi qui est envoyé et forcément les manifestants et puis nous les journalistes on est aussi touchés. Alors je sais pas sur quelle image précisément vous êtes en ce moment. Nous, notre caméra, l'image elle est un petit peu rouge puisque il y a eu on nous a tagué la caméra.
D'accord. Oui, je la vois, c'est votre
la
image à gauche
parce que
oui.
Évidemment à chaque Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est évidemment les ultras qui ne veulent pas qu'on les filme dans ces moments-là, et donc soit qui nous repoussent physiquement, soit avec les jets de peinture qu'ils ont pour eux taguer et faire passer leur message sur les commerçants qui se sont pour la plupart barricadés, mais malheureusement il y a toujours, on va dire, des victimes collatérales dans le sens des magasins qui ne devraient pas être visés à l'origine, mais malheureusement il y a certains commerçants qui vont venir ce soir ou demain et qui vont voir leurs vitrines complètement détruites.
Pour qu'on comprenne quand même, Jeanne, on est où par rapport au cortège principal? On est dans une rue adjacente, ou est-ce que ça entrave aussi la bonne marche du cortège, ou on est vraiment dans un endroit séparé?
Alors forcément, ça entrave la bonne marche du cortège, puisqu'en fait, il faut bien vous dire que ce cortège, il a été maintenant scindé en deux. Là, on est vraiment à quelques mètres de la place de la Bastille, place par laquelle on doit passer. C'était prévu pour aller jusqu'à Nation. Et donc là, ce cortège, il a été scindé en deux. Devant nous, vous avez le haut du cortège, la tête de cortège. Mais on va dire que c'est la partie la moins fournie, puisqu'il y a énormément de manifestants qui sont partis un petit peu plus tard de la place de la République en raison du nombre important de cette mobilisation. Et donc, ces manifestants, eh bien, pour l'instant, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer. Ça représente la plus grande partie de ce cortège ici.
Merci, à tout à l'heure. Karim Zeribi, recommentaire.
Oui, non, je voudrais réagir à ce que disait Sandra Buisson sur l'interdiction administrative. Oui. Il est quand même assez fort de café que cette interdiction puisse être proférée par un préfet dans le cas des violences dans les stades de foot. Et pas dans ce genre de manifestation.
C'est le texte, à un moment donné, visiblement, qui avait été mal rédigé.
Le texte mal rédigé, mais on peut en rédiger un autre si on a la volonté politique. Et là, on peut s'interroger comment on a pu rédiger un texte convenable pour ceux qui commettaient des violences à les stades, et comment on n'est pas capable de rédiger un texte convenable pour ceux qui commettaient des violences à les manifestations. Je veux vous dire, le préfet, il pourrait prendre des mesures préventives. Il y a un certain nombre de personnes qui sont identifiées, identifiables, donc même si elles n'ont pas été prises en flagrant délit, il peut prendre une mesure préventive si on lui accordait ça.
C'est la théorie Jean Messia, en fait.
Non, la théorie Jean Messia, c'est que le gouvernement laisse faire. Moi, je ne dis pas qu'il laisse faire. Je dis que la volonté politique n'est pas suffisamment marquée pour lutter contre ces gens-là. C'est pas pareil.
Karim Zeribi, à partir du moment où le gouvernement ne procède pas de manière préventive, comme vous le dites fort justement, ça veut dire qu'il laisse faire. Alors, c'est pas explicite. Mais si vous n'arrêtez pas quelqu'un avant qu'il fasse ce qu'on voit sous nos yeux, c'est que quelque part, vous l'y avez implicitement autorisé. Ou alors, vous l'arrêtez préventivement. La deuxième chose, c'est que quand j'écoute le commentaire de Mme Buisson tout à l'heure, moi j'ai une question à poser. Comment le gouvernement a-t-il fait avec les gens d'ultra-droite? Puisque les gens d'ultra-droite, on les a arrêtés avant. Donc c'est possible.
Oui, mais parce qu'ils étaient sur le point. Ils étaient. Là, ce dont vous parlez, c'est des interdictions administratives, c'est-à-dire qu'on va vous notifier plusieurs jours avant. De dire, vous n'avez pas le droit d'aller à Paris, vous devez pointer au commissariat ou à la gendarmerie pour qu'on soit sûr que vous veniez pas. Ce qui s'est passé avec les individus d'ultra-droite, vous parlez, je pense, après le match de foot. Attendez, avec le match de foot, les individus, notamment la quarantaine qui ont été interpellés à Paris, étaient sur zone, commençaient à se cagouler à la sortie du bar et avaient des armes par destination sur eux. Aujourd'hui, dans la manifestation et en amont de la manifestation, tous les individus qui ont été retrouvés avec des cagoules, tout ce qu'il fallait pour se masquer et des armes par destination, ont été arrêtés. C'est la même chose.
D'accord. Bon,
On n'est pas là pour faire un parallèle systématique non plus avec l'ultra-droite.
La question des stades, effectivement, il est beaucoup plus facile d'interdire des gens d'accéder à un stade, d'avoir des interdictions administratives, de participer à des manifestations sportives, parce que c'est délimité, alors que là, c'est ouvert.
J'aimerais qu'on revienne au modus operandi sur le terrain aujourd'hui et à ce qu'on aperçoit à l'image, en compagnie de Pascal Bitopanelli. C'est intéressant ce que nous disait, et c'est un grand classique du genre, ce que nous disait notre reporter tout à l'heure, le cortège, de facto, est scindé en deux. Ça veut dire qu'on n'avance pas parce que, voilà, il y a cette situation un peu plus chaotique qui se déroule au milieu.
Voilà, absolument. Malheureusement, on va dire que c'est quasiment une configuration habituelle. Les forces de l'ordre sont obligées, dans leur travail technique, au bout d'un moment, de scinder, d'isoler, de faire de l'interpellation immédiate pour sortir les éléments volants, faire redescendre la température, et le cortège se disloque. On a l'avant, la tête de cortège, la fin de cortège et un milieu qui part avec des groupuscules qu'il est difficile de contrôler. C'est pour ça qu'on met beaucoup, beaucoup d'effectifs sur le terrain pour essayer de tenir l'équilibre de l'ordre public.
À 200 ou 400, on fait déjà pas mal de dégâts?
Bien sûr. Oui. Des gens qui sont des professionnels,
15, 20, voilà,
on peut faire beaucoup de casse, absolument.
En étant aguerri.
Pour parler justement de ce chiffrage, moi j'ai repris les chiffres qu'on avait au moment des précédentes manifestations contre la réforme des retraites, c'était en décembre 2019. À 400 casseurs qui étaient présents un premier mardi et 400 le même nombre le deuxième mardi, oui, la situation a dégénéré sur un des deux et pas sur l'autre. Donc en fait, ça dépend vraiment de la capacité qu'ont ou pas à former un black bloc les individus ou à passer à l'acte et à commettre les dégradations. Là, vous le voyez, on voit des policiers assez présents qui interviennent dès qu'ils voient des dégradations. On les a vus un petit peu, c'est pour ça que j'attirais votre attention, parce que sur l'image, on avait la Matmut, la fameuse agence qu'ils ont tenté de dégrader. Et effectivement, les policiers se sont posés devant. La clé de l'intervention des forces de l'ordre, c'est d'éviter que le black bloc ne se forme. Le black bloc, c'est quand des centaines d'individus radicaux et de casseurs se mettent vraiment tous ensemble et forment une masse compacte. Et alors là, une fois qu'ils sont agglomérés et qu'ils commettent des dégradations, c'est très difficile de les disperser. C'est pour ça que vous voyez des interventions régulières des forces de l'ordre dès qu'il y a des tentatives pour pouvoir
d'écarter ces éléments.
Voilà, les disperser et surtout les empêcher de s'agglomérer.
En fait, il faut dynamiter le oui, cœur.
Et les forces de l'ordre agissent sous plusieurs formes. Vous avez ceux qui sont en tenue et ils sont très identifiés, identifiables, les professionnels du maintien de l'ordre, mais vous avez aussi des forces de l'ordre civils qui pénètrent effectivement les groupes pour essayer d'anticiper le moment où ces groupes vont charger et tenter de mettre à mal la manifestation. Et là, ils interviennent aussi à l'intérieur, habillés quasiment comme les casseurs pour pas se faire repérer, étant en contact avec ceux qui sont en tenue pour qu'ils soient en appui. Donc il y a quand même un dispositif qui est très bien organisé. Mais encore une fois, je veux dire, on ne peut pas avoir des forces de l'ordre partout qui combattent toutes les brèches. Et donc ces groupuscules qui sont parfois des groupuscules de centaines d'individus, mais qui s'organisent à 20, 30, 40 dans les rues adjacentes, chargent de manière diverse. C'est compliqué pour les forces de l'ordre. Ils font un travail remarquable, hein, malgré tout, il faut le dire. Hein.
Vous la voyez à l'image, cette agence Matmut, cette agence d'assurance qui a été prise pour cible. Et puis à gauche, toujours cette situation chaotique avec exactement la mise en œuvre de ce que vous décriviez, c'est-à-dire qu'on identifie, on isole de manière à essayer de casser un peu la dynamique du regroupement spectaculaire que peuvent opérer le Black Bloc.
Alors malheureusement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, on pouvait penser que dans une gestion concertée du maintien de l'ordre, c'est-à-dire un parcours prévu avec les forces de l'ordre, les organisateurs, les syndicats, un service d'ordre des syndicats qui est très efficace. On dit amener du muscle. On a des garçons qui savent travailler dans la rue. Les forces mobiles, gendarmes mobiles et CRS, vous vous rendez compte, tout ça qui travaille ensemble en transversalité opérationnelle et préparatoire, et on a quand même des débordements. On voit donc en cela le professionnalisme de ces gens qui arrivent quand même assez facilement faire déraper une situation.
On a vu des bâtons, des choses comme ça, hein, qui volaient, hein, tout à l'heure.
Parce qu'en fait, sur une manifestation qui peut être tendue à certains endroits comme elle l'est, elle est aussi... Les casseurs vont essayer de passer à l'acte, de toute façon, sauf si vraiment, exceptionnellement, ils voient, oui, qu'ils ne peuvent pas.
Il y a un degré de détermination
pour se mêler dans toute la manifestation générale. Donc ils vont tenter. Donc forcément, si les ordres ont été donnés de les empêcher de s'agréger et de commettre des violences et d'intervenir dès les premières dégradations, effectivement, ce sera viril, il va y avoir des affrontements, mais pour les empêcher d'arriver à leur fin.
Mm-hmm. Jean Messia, un dernier commentaire peut-être sur, écoutez, sur cet aspect-là.
J'aurais appris qu'aujourd'hui qu'on ne peut rien faire contre l'ultra-gauche, ni avant, ni pendant, ni après. Ça, c'est la première chose.
Ils vont les relâcher,
ils vont recommencer, comme c'est toujours le cas. C'est le cycle infernal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, et on comprend pourquoi, d'une certaine façon, de quoi on est en train de parler depuis 10 minutes. Est-ce qu'on parle des enjeux de la manif?
Ah ben non.
Est-ce qu'on a parlé de ce que réclament ces gens? Est-ce qu'on a parlé du fond des choses? Est-ce qu'on a parlé du mouvement, des causes du mouvement social et de l'agrégation de ces colères? Non. On est en train de faire du commentaire de la sécurité. Donc, in fine, l'intervention de ces casseurs, qui, encore une fois, n'ont pas été arrêtés préventivement, permet aujourd'hui d'avoir un commentaire uniquement sécuritaire et d'évacuer le fond du débat, c'est-à-dire la cause de la mobilisation sociale. C'est ce qui est recherché, après tout.
Jeanne Cancard est sur le terrain, toujours à ce point qui s'échauffe un petit peu, et la situation est toujours tendue, hein, là où vous vous trouvez.
Oui, Nelly, situation toujours tendue. Et puis surtout, c'est que le cortège est totalement à l'arrêt maintenant. On stagne ici, boulevard Beaumarchais. Impossible maintenant de se déplacer. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la plus grande partie du cortège qui est bien derrière. Encore côté parfois République, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées ici. Mais voilà, le cortège est maintenant totalement arrêté en raison de ces tensions. Vous pouvez peut-être l'entendre en ce moment, il y a encore des pétards qui sont lancés. Des pétards lancés par les groupes de Black Blocs qui se forment ici au milieu de ce boulevard. Vous avez les forces de l'ordre qui interviennent assez régulièrement. Alors parfois, on a des petits moments un petit peu plus calmes comme là en ce moment, mais c'est pour un petit peu, ça risque de repartir. Vous voyez là, il y a des pétards qui sont de nouveau lancés. On a vu aussi des interpellations en direct. Les policiers qui tentent d'extraire de cette foule les éléments les plus radicaux qui s'en prennent à la fois aux vitrines des magasins, aux agences d'assurance, aux banques et puis aussi parfois aux petits commerçants qui sont situés ici sur ce boulevard. Les forces de l'ordre qui interviennent et qui sont aussi parfois la cible de ces manifestants avec différents projectiles comme des bouteilles en verre ou encore des morceaux de bois qui ont été trouvés ici sur le chemin.
Est-ce que vous remarquez une augmentation si j'ose dire, des effectifs? Tout à l'heure, on parlait d'une centaine d'individus qui étaient visibles à l'écran. Est-ce que là, par opportunisme, d'autres se sont greffés entre-temps?
Oui, c'est un peu le sentiment qu'on a finalement ici. Nous, au début, on a vu d'abord quelques dizaines de personnes entièrement vêtues de noir et cagoulées. Et puis au fur et à mesure que les groupes se forment, que les groupuscules se forment, eh bien on voit des personnes qui se greffent. Alors il faut bien évidemment préciser que ces personnes ne sont pas des manifestants lambda qui viennent ici pour cette mobilisation de ce jeudi contre la réforme des retraites. Finalement, autour de nous, on ne voit pas vraiment de manifestants. Ils se sont plutôt mis à l'abri. Vous savez, on essaie dans ces cas-là de trouver un endroit, un lieu sûr. Donc là, les personnes qu'on voit autour de nous, eh bien, ce sont des personnes qui veulent venir ici pour tout simplement regarder les tensions qui éclatent entre les éléments radicaux et puis entre les forces de l'ordre. Soit essentiellement, ce sont soit des journalistes, soit bien sûr des Black Blocs qui sont présents ici. Et ce qu'on sent, et ce que parfois on entend aussi, parce qu'on n'est pas très loin d'eux, donc on les entend communiquer, c'est on va tout péter, on reste ici, donc ils ne sont pas prêts de partir pour le moment.
Pascal Bitopanelli, merci Jeanne. Tout à l'heure, un point de tension majeur, c'est celui qu'on aperçoit à l'écran. Ça se complique quand on arrive à faire exploser le cortège en plusieurs points, et là, ça devient encore autre chose?
Oui, c'est plus difficile à gérer sur la globalité, sauf à considérer que sur la plaque parisienne, on a des grands spécialistes de l'ordre public, on a des unités spécialisées gendarmes mobiles CRS qui savent bien travailler et qui, si j'ose dire, malheureusement, ont l'habitude de ce terrain.
Bien sûr. Karim Zeribi, moi, il y a autre chose qui me vient en tête, c'est que là, on nous dit que le cortège n'avance pas. Beaucoup des milliers de personnes, sans doute, se trouvent encore place de la République. Ça fait du chemin pour aller jusqu'à Nation. Il est 16h20 à la louche. Dans une heure ou deux, il fera nuit. Ça va être encore autre chose. C'est un élément supplémentaire.
Vous avez raison, Nelly, de le souligner. Et je pense que c'est ce sur quoi vont jouer aussi les casseurs. Donc une obscurité qui va rendre la tâche difficile pour les forces de l'ordre, une difficulté donc pour eux d'identifier les manifestants des casseurs, et donc le temps joue pour eux, pour créer le trouble, pour créer le délitement de cette manifestation, donc et passer à l'attaque plus facilement quand il fera plus sombre, c'est évident. Par rapport à ce que dit Jean Messia, j'ai envie de rebondir. Moi, je m'insurge en faux contre l'idée que le gouvernement pourrait se satisfaire de que les manifestations se passent mal. Mais une fois que j'ai dit ça, sans apporter de l'eau à son moulin, je veux dire quand même que le fait qu'on ne maîtrise pas la situation pénalise quand même quelque part la mobilisation. Il y a plein de salariés, j'en suis convaincu, de très nombreux salariés qui ne vont plus dans les manifestations, oui, même s'ils partagent les mots d'ordre, parce qu'ils ont peur évidemment de se retrouver au milieu des casseurs et au milieu de la violence. Ça pénalise quelque part le niveau de mobilisation en termes de masse. Enfin, derrière, au plus les manifestations se passent mal, au plus l'opinion en général qui est spectateur, estime qu'il faut cesser de manifester. Il faut revenir à un climat plus normal, et donc là aussi ça pénalise ceux qui voudraient se battre pour l'avenir social qui est le leur et leurs conditions sociales. Donc quelque part, sans pour autant, Jean, acquiescer la thèse que le gouvernement serait complice passif de ce qui se passe, c'est sous-entendu dans votre propos.
Ça, c'est pas acceptable. C'est moins qu'on puisse dire.
Non, après, qu'on soit impuissant face à ces Black Blocs, il faut le regretter, parce que ce soir, je suis convaincu que nous parlerons de quoi dans toutes les émissions, certainement des casseurs, malheureusement, oui, plus que
c'est
des mots
d'ordre.
C'est
géométrie variable.
Ça, c'est lamentable.
Sandra, puisqu'on parle de ça, effectivement, c'est ce qui nous anime en ce moment. Est-ce qu'on a déjà un retour sur les chiffres en termes d'interpellation?
Alors, à la mi-journée, il y avait eu 2300 contrôles de faits en amont. Hein, donc, c'est les contrôles dont je vous parlais pour détecter les individus violents ou porteurs d'armes par destination. Et à 7h, on est au niveau de 20 interpellations. Et une précision pour vous dire qu'effectivement, vous voyez sur l'image de droite à l'écran, le cortège qui se comporte tout à fait bien, puisqu'en fait, il va de République. Et la tête du cortège a déjà passé Bastille. Le point de tension qu'on a identifié se situe à quelques centaines de mètres de Bastille, sur le boulevard Beaumarchais. Mais le reste des manifestants, comme vous le voyez à droite, manifestent très tranquillement. Il y a ce point de tension à cet endroit, notamment là où l'agence d'assurance a tenté d'être dégradée. Mais pour le reste, les manifestants, vous le voyez, sont tout à fait calmes.
Eh bien, justement, Maureen Vidal, qui se trouve avec le cortège principal, celui dans lequel tout est calme pour le moment, il est obligé, Maureen, il est contraint, ce cortège, d'emprunter un itinéraire bis, n'est-ce pas ?
Alors oui, le cortège a pris un itinéraire bis. Il est dans la rue juste derrière les policiers que vous voyez là actuellement, pour continuer dans la rue donc parallèle d'où je me trouve, hein, boulevard Beaumarchais. Et pour le moment, il y a une trêve entre policiers et Black Bloc. Hein, depuis tout à l'heure, environ 15 minutes de heure se sont déroulées. Des jets de projectiles sur les forces de l'ordre ont fusé. Un arrêt à chaque fois de 5 minutes environ, hein, le temps que les policiers puissent se remettre en place, s'effectue. Pour le moment, il ne se passe plus grand-chose. Et effectivement, le cortège continue derrière. Mais ici, l'ambiance est plutôt lourde.
Merci beaucoup, Maureen. J'aimerais qu'on parle de la technique de guérilla de ces Black Blocs. Vous disiez tout à l'heure, ils ont un certain nombre de techniques, d'outils à leur disposition. Comment ça se matérialise réellement ?
Alors, ça se matérialise par des réunions préparatoires où on va se donner des points de rassemblement. Ça se matérialise par une tenue, qui est celle que maintenant tout le monde connaît, de noir, casque, gants, des outils pour dégrader, du tag, du graphe, des slogans, des banderoles. Et ça se caractérise par deux techniques principales. On dit celle du coucou, c'est-à-dire qu'on va prendre le nid, on va prendre la manifestation. On va pénétrer dans la manifestation, quelque part, la kidnapper. Et d'autre part, la technique dite du swarming, un peu le banc de poisson, l'essaimage, c'est-à-dire qu'on est groupé comme un banc de poisson. On va partir sur les latéraux très rapidement pour casser, taguer, affronter, et on va revenir dans la masse d'une manière très rapide. Ces départs sur les latéraux, on bute non seulement au-delà de leur mobilité, de saturer les forces de l'ordre et de revenir. C'est donc une technique qui est assez efficace et que techniquement on maintient de l'ordre. Il n'est pas évident de travailler, il faut faire l'interpel en flagrant délit, il faut donc monter à la violence, et on a des fois au contact des préfets qui disent on fait l'interpel, mais attention, vous savez bien qu'au final, dans le maintien de l'ordre, on essaye d'éviter les blessés.
Sandra, c'est ce que vous disent aussi vos sources, vos contacts, hein, au ministère.
Oui, maintenant, c'est tout à fait ça. C'est un rapport, c'est un peu comme les médicaments, vous voyez, c'est un rapport bénéfice-risque. Donc il ne faut pas, en intervenant, créer plus de troubles que si vous n'étiez pas intervenu. Et voilà. Effectivement, si vous intervenez trop fort, trop vite et trop puissamment, vous aurez beaucoup de blessés. L'opinion publique vous reprochera. Si vous n'intervenez pas, on vous reprochera de ne pas l'avoir fait et qu'il y ait trop de casse. Donc c'est toute une alchimie. Ouais. Et donc il n'y a pas de solution préétablie à toute manifestation. Juste pour revenir sur les techniques des Black Blocs, moi j'avais suivi aussi, j'avais fait un reportage avec une cellule, donc Gilets jaunes, qui rechercher a posteriori à retrouver ceux qui avaient commis des dégradations au moment des faits. C'était à Bordeaux. Et ces policiers nous expliquaient que, pour vous expliquer jusqu'où vont les casseurs, c'est-à-dire qu'ils mettent des surchaussures pour éviter qu'on ne repère les particularités de leurs chaussures et qu'on puisse les retrouver après, suivant les caméras de vidéosurveillance. Donc, non seulement ils se changent, mais ils changent même le dessus de leurs chaussures.
Ils ont plusieurs couches de vêtements qu'ils ôtent au fur et à mesure aussi. Karim Zeribi, commentaire.
Non, mais même si ces groupuscules peuvent exister ici ou là en province, on peut noter quand même que les manifestations qui sont déroulées dans les autres métropoles se sont plutôt bien passées ce matin et on maîtrise la situation. Ça se cristallise.
Compris dans des villes supposées tendues, Nantes, Rennes.
Oui, compris dans des villes supposées tendues, Nantes ou autres, ça s'est plutôt bien passé. En revanche, effectivement, ça se cristallise à Paris parce que là, c'est pas une armée, les Black Blocs, ils sont pas des milliers, mais ces petites centaines font énormément de mal parce que, comme l'a dit Pascal très bien, ils ont des techniques quand même très, 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 très bien organisées, très structurées, sont des professionnels de la guérilla. Et il y en a en Europe aussi, il y en a en France, et d'ailleurs, ils vont sur tous les sommets s'unir pour grossir leur rang et semer le trouble un petit peu partout. Chez nous, c'est quand même plutôt, et en particulier à Paris, qu'ils infiltrent les manifestations et qu'ils sèment le trouble. Donc, c'est vrai, on parle beaucoup d'eux. Je ne pense pas que nous en parlions trop parce que quand même c'est néfaste de voir des gens agir de telle manière et mettre à mal la République. En revanche, ce qu'il faut dire à côté, une fois qu'on commente ces exactions, c'est que globalement ça se passe plutôt bien, ça s'est plutôt bien passé en province. Il y a des centaines de milliers de personnes qui manifestent avec des mots d'ordre sains, sans violence, et qu'ils le font au service d'une cause qui est louable.
Jean Messia.
Vous vous rappelez des manifestations de foulards rouges? C'est les manifestations qui qui allaient à l'encontre des manifestations des Gilets jaunes et qui étaient mobilisées pour soutenir le gouvernement et le pouvoir à l'époque, et dont le pouvoir d'ailleurs se gargarisait de dire qu'elle mobilisait pas mal de personnes. Vous avez vu des Black Blocs dans ces manifestations?
Ils étaient trois chats, Jean.
Pardon?
Ils étaient trois chats.
Le gouvernement nous a dit que les foules.
Est-ce que vous voulez aller troubler une manifestation?
Ah, excusez-moi. Je suis bête et discipliné. Le gouvernement à l'époque nous avait dit que c'était une mobilisation qui n'était pas massive, mais qui était très importante. Donc, si c'était une mobilisation importante, on aurait dû voir les Black Blocs dans ces manifestations. Bizarrement, dans cette manifestation de soutien au gouvernement contre les Gilets jaunes, il n'y avait aucun Black Blocs. Là, comme c'est une réforme qui va à l'encontre du gouvernement, effectivement, les Black Blocs sont massivement présents, perturbent le cortège et nous obligent à parler des dizaines de minutes sur les questions sécuritaires plutôt qu'à parler du fond. Encore une fois, je ne dis pas que tout ça est voulu, mais quand on cherche pas... Vous avez dit tout à l'heure, oui, on est impuissant à les arrêter. Excusez-moi, l'impuissance du gouvernement, elle est à géométrie variable. Par moments, le gouvernement est très puissant quand il le veut et très impuissant quand il le veut aussi. Donc à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles.
La tension reprend là. Hein. Si vous nous rejoignez, il est 16h30 quasiment. Nous sommes dans ce cortège parisien qui conteste la réforme des retraites prévue au Parlement dans quelques semaines. Et déjà, donc, de premier débordement, de première heure, apparu il y a une heure environ, avec ces amas maintenant de personnes en noir que les policiers tentent de maîtriser sur une image malheureusement qui bouge beaucoup, mais on voit bien que la tension est en train de s'accroître. Pascal Bitopanelli, là on est quand même dans quelque chose qui est en train d'évoluer et pas très favorablement, quoi.
Oui, parce qu'on a toujours sur le terrain ces éléments, ces casseurs qui continuent par point de tension, par point d'attaque, de s'en prendre aux forces de l'ordre et d'essayer de se rassembler à nouveau en prenant des axes de fuite ou en se rassemblant en bloc de manière très volatile et en essayant de saturer les forces de l'ordre. On constate d'ailleurs dans l'action d'interpellation des forces de l'ordre qu'on est réellement sur cette nouvelle forme de maintien de l'ordre qu'on a avec des unités, les braves, etc., qui interpellent dès qu'il y a de la tension, qui exfiltrent les individus, repartent en protection, qui mettent du lacry pour mettre de la distance afin qu'il y ait le moins de corps à corps possible et qui essayent en cela de rétablir un peu la normalité de la manifestation. Mais beaucoup de lacry est toujours pareil, malheureusement, des images très chaotiques de désordre.
Parlons un peu de cet international, si j'ose dire, international Black Bloc. À l'origine, enfin moi j'ai souvenir de ce genre de manifestants, ou en tout cas d'éléments anarchistes, quand j'étais plus jeune, qui se greffaient surtout dans les contestations aux événements internationaux, les G7, les G20, les forums économiques. C'est aussi pour ça que c'est devenu une internationale, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de nationalités qui se rejoignaient dans ces lieux de contestation. C'est resté, cette tradition?
C'est resté, tout à fait. Les premiers Black Blocs, c'est Berlin-Ouest 1980. Et à partir des années 1990, on les a vus sur les grands sommets internationaux, Le premier gros black bloc a été, je dirais, qui a carrément créé un effet de sidération au niveau des forces de police, c'est mai 2018, 1200 personnes. Là, ça a été extrêmement révélateur pour les forces. On s'est dit, oh là là.
Moi, j'avais été marquée par les contestations à Seattle. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, absolument.
Les Black Blocs, c'est les altermondialistes.
Également. On les appelait les altermondialistes, absolument. Karim Zeribi, souvenir de.
Oui, non, mais c'est évident qu'il y a des images qui nous ont marquées il y a quelques décennies, hein, lorsque ce mouvement a émergé, avec cette forme d'addition. Donc des anarchistes, des contestataires, des anticapitalistes, ici ou là en Europe et au-delà, qui décidaient de se réunir pour porter des attaques à ceux qui étaient là pour assurer le bon déroulement des G7 ou des G20 que vous évoquiez tout à l'heure. Donc aujourd'hui, à l'échelle des États-nations, c'est quand même, il me semble, chez nous, que les manifestations sont le plus perturbées. Et donc j'ai l'impression quand même qu'au-delà en Europe, peut-être en Allemagne, on a aussi quand même encore des heurts lorsqu'il y a des manifestations. Mais bon à mal an, j'ai l'impression qu'on jugule peut-être mieux qu'on ne le fait ces groupes dans les manifestations à l'échelle nationale. Nous, on est sans arrêt pollués par ces black blocs, sans arrêt pollués. Et ce qui est insupportable, c'est que, encore une fois, les mots d'ordre qui sont légitimes de la part des Françaises et des Français qui décident de manifester, du coup, on n'en parle plus, on n'en parle moins. Pour autant, l'intervention tout à l'heure du président de la République a fait entorse à une tradition qui est de ne pas s'exprimer à l'étranger sur la politique intérieure, démontre qu'il y a une forme de fébrilité du côté du gouvernement. Le président de la République est très attentif et il l'a commenté à ce qui s'est passé, à ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même, à ce qui s'est passé ce matin, en province. Il a des chiffres, le président. Il est tenu au courant en temps réel sur ce qui se passe sur le terrain en France. Et on lui dit, monsieur le président, ils sont près d'un million dans la rue. Donc ils sont près d'un million, ça veut dire ça a marché, et si ça a marché, il va falloir s'attendre peut-être à d'autres jours de grève. Donc il a répondu de l'Espagne. Or, il ne le fait quasiment jamais habituellement, commenter la politique intérieure. Ça signifie quand même qu'il y a une forme de fébrilité sur ce qui peut se passer du côté du gouvernement.
Jeanne Cancard, retour en immersion dans le cortège avec, en ce moment, du côté de ces affrontements, beaucoup de provocations de la part de ces éléments Black Bloc.
Oui, Nelly, souvent, comme souvent dans ces moments de tension, c'est un petit peu le jeu du chat et la souris finalement auquel on assiste en ce moment avec les Black Blocs qui tout d'un coup attaquent les forces de l'ordre. Vous voyez là sur les images en ce moment d'Olivier Gangloff, et bien il y en a certains qui sont en train d'emprunter la rue du Pasteur Wagner. C'est une rue perpendiculaire au boulevard Beaumarchais. Certains donc tentent de rejoindre plus rapidement la place de la Bastille en passant par des rues perpendiculaires, mais c'est à ce moment-là que les forces de l'ordre tentent de les arrêter. Donc le jeu du chat et la souris, pourquoi? Eh bien parce que vous allez avoir des moments de forte tension, comme là en ce moment c'est le cas, avec pendant plusieurs minutes des lancements, des jets de projectiles en direction à la fois des magasins et puis à la fois des forces de l'ordre, avant d'avoir quelques minutes d'accalmie comme pour se reconstituer. Alors les forces de l'ordre, comme l'expliquait tout à l'heure Sandra Buisson en plateau, évidemment elles n'interviennent pas en permanence parce que parfois finalement c'est encore plus provoqué un espèce de capharnaüm énorme ici, parce qu'il y a aussi des manifestants qui sont présents et qui n'ont rien à voir avec ces black blocs et qui cherchent parfois des endroits pour se réfugier. Il faut savoir que ces Black Blocs, ils ont évidemment en cible, en ligne de mire, à la fois les forces de l'ordre, les banques et puis aussi parfois les journalistes. Évidemment, ils nous empêchent régulièrement de filmer leurs provocations avec les forces de l'ordre qui sont présentes évidemment par centaines ici pour tenter d'encadrer ce cortège qui n'en est plus vraiment un, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez une première partie du cortège qui est maintenant arrivée à Bastille et puis la grande majorité du cortège, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont toujours bloquées côté boulevard Beaumarchais, côté République, qui ne peuvent pas avancer. L'arrivée de la manifestation était prévue pour 19h à Nation, mais pour l'instant, ça semble un petit peu compromis.
Merci beaucoup, Jeanne, et faites toujours attention, bien évidemment. Pascal, on sent que on n'a pas du tout avancé, parce qu'on voit les mêmes devantures tout à l'heure, donc on sent que cette confrontation, cette tension, elle s'est cristallisée à un endroit précis. Signe que voilà, ça évolue pas dans un sens comme dans l'autre, quoi.
Hein? Absolument, elle s'est cristallisée et je pense que les forces de l'ordre essayent de, non seulement dans leur suivi, mais de fixer les individus pour surtout pas les perdre et qui partent faire monter la tension sur un autre secteur de la manifestation. C'est pourquoi on est au même endroit avec des provocations, des jets, mais quand même, je trouve, depuis quelques minutes, une situation qui est relativement sous contrôle. On n'est pas dans le service d'ordre, on est dans le maintien de l'ordre, ça a monté d'un cran. On est parfois sur un cran en haut qu'est le rétablissement de l'ordre, mais heureusement, il y a aussi une grosse partie de la manifestation qui s'exprime et qui permet à des milliers d'hommes et de femmes d'exprimer aujourd'hui leur idée, et heureusement.
On imagine quand même leur frustration, Jean Messia, de voir un peu leur, comment dire, leur manifestation hijackée, hein, kidnappée par ces
éléments. Oui, alors je me permettrai un petit aparté, c'est que j'entends le nom des rues où défilent les organisateurs là, énoncés par votre correspondante sur place. Et on passe de la rue des Filles du Calvaire à la rue du Pasteur Wagner. Donc tout ça n'est pas très laïcardo-compatible. J'espère que l'association de la Libre Pensée qui a porté plainte contre la statue de la Vierge va porter plainte contre
D'accord.
les organisateurs
cette boutade,
pour atteinte
si
à la laïcité. Sur le fond, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où vous avez effectivement des problèmes de sécurité qui se posent à l'intérieur des manifestations, eh bien, le commentaire se focalise sur la question sécuritaire et on finit par oublier ce pourquoi les manifestants manifestent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un effet décourageant la cause, quelque noble qu'elle fût, de la manifestation, à voir évidemment ces scènes de violence extrême. D'abord, les gens qui veulent aller manifester, quand ils voient ça, ils n'ont pas nécessairement envie. On sait quand même que la France est un pays, globalement, les Français sont quand même un peuple légitimiste. C'est-à-dire que quand ils voient la manifestation, etc., rien ne les horripile davantage que ce que le général de Gaulle appelait un chien-lit. Et donc évidemment, quand on voit des manifestations qui dégénèrent comme ça, on voit des vitrines cassées, des policiers caillassés, des pétards, des mortiers d'artifice, des feux, etc., des poubelles en feu et des voitures renversées, eh bien évidemment, ça donne une image, si vous voulez, de la manifestation et donc de la cause qui est défendue au sein de cette manifestation, ça donne une image déplorable. Donc finalement, cette question sécuritaire, elle est au centre non seulement, bien sûr, de la sécurité des manifestants et des abords de la manifestation, mais elle est aussi au centre du débat oui. de la manifestation elle-même, de la mobilisation, des causes de la mobilisation elle-même.
Il y a un côté dépossession un peu du message des manifestants, y compris syndical, même si, on le sait tous, à la fin de la journée, chacun comptera ses hommes, et les syndicats nous diront « c'était super, c'était une grande réussite, on a eu tant et tant, et on a réussi notre entreprise ».
Oui, évidemment. Je vais dans le sens de ce qui vient d'être dit, même si c'est très rare que j'aille dans le sens de Jean Messia, pour ne pas dire quasiment jamais le cas, mais là, il
c'est
a raison.
La première fois.
Il a raison. Il a raison quand il dit que l'opinion n'est pas insensible à ce qui peut se passer dans une manifestation. Je vous rappelle quand même que le mouvement des Gilets jaunes, donc en novembre 2018, il est soutenu par une immense majorité de Français qui comprennent pourquoi les gens vont sur les ronds-points avec des fins de mois difficiles, des gens qui étaient pas syndicalisés, qui appartenaient pas à des partis politiques, et puis de semaine en semaine, donc on sentait que le soutien s'étiolait parce que les manifestations étaient frappées par de la violence. Et les Français sont assez légitimistes, mais veulent surtout que la République reste debout. Or, on a des gens qui infiltrent ces manifestations, tels les Black Blocs, qui eux souhaitent le chaos. Et les Français ne souhaitent pas le chaos, même s'ils contestent une réforme, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il va falloir quand même, à un moment donné, qu'on arrive à maîtriser ces black blocs, parce que sinon les mouvements sociaux dans notre pays seront de plus en plus mis à mal, et tous les gouvernements, quel que soit leur couleur, pourront faire passer ce qu'ils veulent, et ce n'est pas simple pour la démocratie.
Sandra Buisson, sur l'image qu'on aperçoit à droite, il se passe exactement ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaie de transposer un petit peu les affrontements à des rues adjacentes, de transposer et de... transférer un petit peu les affrontements un petit peu plus loin pour brouiller les pistes et rendre les forces de l'ordre un peu chèvres.
Alors là, j'ai du mal à voir où ça se situe.
Mais on voit que c'est plus sur l'axe principal quand même.
Si c'est plus sur l'axe principal, pour le maintien de l'ordre tel qu'il se fait habituellement, quand les forces de l'ordre se positionnent
Boulevard
comme
Wagner,
ça, c'est pour éviter
Pasteur Wagner,
les
le
départs
fameux.
En cortège sauvage, c'est-à-dire éviter que les individus, les casseurs, sortent de la manifestation et aillent commettre
donc
des violences
qui bloquent.
Ailleurs. Donc on les empêche de partir en cortège sauvage, effectivement. C'est ce que décrivait un peu la journaliste tout à l'heure qui nous disait qu'ils essayaient de partir dans une rue adjacente. Parallèlement, on sait que, et ça avait été prévu dès le départ et ça n'a rien à voir avec les tensions, mais il y a un itinéraire bis qui est là encore assez fourni. Ça passe par le boulevard Voltaire. Et cet itinéraire, ce deuxième itinéraire, il avait été prévu en amont avec les organisations syndicales. C'était en cas de forte affluence. Et effectivement, vu l'affluence qu'il y avait aujourd'hui, il y a une deuxième manifestation qui avance en parallèle avec celle-ci et donc qui passe par le boulevard Voltaire. Mais ça n'a rien à voir avec les cortèges sauvages, effectivement, tels que les casseurs veulent le faire.
Maureen Vidal est dans la tête de cortège. Maureen, c'est le retour au calme là où vous vous trouvez, n'est-ce pas ?
Eh bien, à l'instant, plus. Hein, apparemment, le calme essayent de maintenir l'ordre et se tiennent prêts au cas où, hein, s'il y a un nouvel assaut de la part des Black Blocs. Encore des slogans anti-police fusent pour le moment. Pas de violence, mais ça sent mauvais. Je pense que d'ici quelques secondes, encore quelques heures vont se produire face à nous. Des jets de projectiles, des fumigènes et des bombes lacrymogènes. Je vous tiens au courant s'il y a plus d'informations.
Merci beaucoup. Pascal, cette image qu'on voit à droite, là, où à la fois on fait, je sais pas, la tortue, un peu la tortue romaine, ou alors on se met en travers de la route, ça correspond à quoi comme technique ?
Voilà, donc là on fait des barrages d'arrêt fixe fermés pour parfois bloquer de manière à ce que le cortège puisse se rééquilibrer ou qu'on baisse les tensions. On fait un travail de canalisation. On bloque les axes de fuite de manière à ce que les tensions ne partent pas sur d'autres zones et qu'on puisse continuer de contrôler. Et jusque-là, on voit que les forces de sécurité mobile interviennent très rapidement et maîtrisent. On fait des interpellations très spontanées et on ressort, on exfiltre les individus sous protection des boucliers. Pour revenir sur le problème parisien, parce que c'est vrai que ça a été évoqué très justement, notamment par Karim. Pourquoi on a souvent les Black Blocs à Paris et les casseurs ? Ben, pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est à Paris où on a le plus de densité et de mobilité, c'est là où on peut facilement s'agréger. Et par ailleurs, au niveau des casseurs, Paris, c'est le totem, c'est la prise de guerre, c'est la ville du capitalisme, des patrons du CAC 40. C'est face à ça qu'on veut casser.
Ils avaient attaqué le Fouquet's pour ça, d'ailleurs.
Absolument.
Parti.
Sandra, est-ce qu'on a d'autres chiffres en termes d'interpellation ou ça n'a pas encore évolué depuis tout à l'heure ?
Non, ça n'a pas encore été évolué. Et puis, il faut attendre que la manifestation avance un peu. Ces interpellations, elles ont eu lieu notamment en amont, avant que la manifestation ne démarre. Et elle a commencé aussi... alors là, je m'interromps deux petites minutes. On a l'impression donc, que le cortège qui était arrêté parce que les casseurs étaient passés à l'acte, j'ai l'impression que c'est celui-là qui commence à repartir. Et peut-être que la mise en ligne des forces de l'ordre devant était justement pour permettre au cortège, parce que derrière les forces de l'ordre, on a vraiment l'impression que c'est les manifestants classiques.
Sur l'image de droite, c'est l'image de droite que vous commentez là.
Non, et l'image de gauche, en fait. On a l'impression qu'il redémarre devant les manifestants. Mais encore une fois, faudrait voir avec nos reporters sur place. Mais on a l'impression
que ça bouge en tout cas sur ce boulevard.
Essayer de rétablir le rythme normal de la manifestation.
Je vous ai pas posé la question tout à l'heure, Pascal, mais ce qu'on disait à propos de l'aspect nocturne, est-ce que là aussi c'est un facteur aggravant ? On disait que la manifestation était prévue pour son point d'arrivée autour de 19h, ce qui est déjà assez tard. Et on a déjà à ce moment-là des scènes qui se déroulent de nuit. Là, on pourrait même aller au-delà. C'est toujours plus difficile à ce moment-là de contenir des débordements ?
C'est un paramètre de difficulté supplémentaire, parce qu'évidemment, on a moins de visibilité, on a des gens qui peuvent mieux se dissimuler, qui sentent des ailes pour se cacher, casser, provoquer, effectuer des jets. Donc effectivement, il faudrait qu'avant la fin d'après-midi, on ait pu baisser les tensions et qu'on soit sous contrôle tout spécifiquement autour des blocs de casseurs.
Par ailleurs, ça peut très bien s'agir et repartir de plus belle à la toute fin de manifestation,
absolument,
au moment de la dispersion.
Oui,
le fait que le cortège se soit scindé, c'est peut-être aussi une technique utilisée parfois pour les forces de l'ordre, c'est-à-dire de couper le cortège et pour isoler les phénomènes violents,
absolument,
et pouvoir les interpeller plus facilement.
Oui, tout à fait. On isole pour interpeller, bloquer et pouvoir reprendre après, un cortège entier avec une tête, un milieu, une fin de cortège.
Jean Messia, on ne l'a pas entendu depuis un petit moment, puis je reviens vers vous. Jean Messia.
C'est encore une fois, c'est difficile de faire du nouveau sur ce qui se passe, mais c'est vrai que plus les forces de l'ordre arriveront à sécuriser la manifestation, plus on arrivera à parler du fond de l'histoire, parce qu'il faut quand même rappeler, ça fait quand même plusieurs dizaines de minutes qu'on parle de la sécurité, mais il faut rappeler le pourquoi du comment il y a eu cette mobilisation. C'est une réforme des retraites qui agrège toutes les colères, puisqu'en fait, elle ne satisfait personne. Encore une fois, c'est la première fois depuis bien longtemps que un certain nombre de catégories sociales aussi nombreuses se mobilisent pour faire une manifestation de cette ampleur sous l'égide de syndicats qui, rappelons-le, n'ont pas une très grande représentativité en France, mais qui ont toujours pu mobiliser au-delà de leur représentativité. Donc là, c'est, on revient
61%
dans un...
des Français sont, dé- voilà, sont donc opposés
on,
à la réforme.
On revient dans, un, dans une mobilisation sociale, je dirais, canal historique, classique, en enjambant, si vous voulez, l'épisode des Gilets jaunes qui avait laissé entendre que la mobilisation, les nouvelles mobilisations sociales seraient complètement différentes, décentralisées, sans leader, etc. Et là, effectivement, on revient à ce qu'on a l'habitude de voir, alors, y compris d'ailleurs, sur le, malheureusement, sur le plan de la sécurité.
Il serait fâcheux que le message ne passe pas, sachant que normalement, cette manifestation devrait être suivie d'autres. Les syndicats devraient être revigorés a priori.
En termes de mobilisation, on peut dire que cette manifestation sera considérée comme ayant été réussie par les organisations syndicales et ceux qui y ont participé. Donc il faut s'attendre à d'autres mouvements, d'autres mots d'ordre, d'autres manifestations ici ou là en France. Moi je veux en profiter pour rappeler combien il est important qu'on ne baisse pas les effectifs des forces de l'ordre, notamment des CRS et des gendarmes mobiles, ceux qui sont en charge du maintien de l'ordre. Je peux vous dire que moi il y a quelques années, quand j'étais conseiller du ministre de l'Intérieur, quand c'était Jean-Pierre Chevènement, le maintien de l'ordre dans le monde entier, on nous l'enviait. Nos techniques de maintien de l'ordre, ils venaient de l'étranger pour voir comment nous opérions, nous Français. Donc, et ensuite, il y a eu quelques séquences politiques qui ont mis à mal les effectifs, qui les ont affaiblis de plusieurs milliers. Et là, donc, ça semble reparti pour accorder de l'importance à ces femmes et ces hommes qui sont dans ce corps, on va dire, spécialisé. La police nationale, nous en avons besoin en général dans notre pays et dans notre société, dans tous les services, que ce soit en sécurité publique, en police judiciaire, donc en maintien de l'ordre. Mais on voit dans les manifestations qui se succèdent, combien il est important d'avoir des professionnels. C'est un métier, le maintien de l'ordre. Tout le monde ne peut pas s'improviser maintien de l'ordre, même si vous êtes un bon flic par ailleurs, donc sur un autre sujet. Et on l'a vu que pour le moment des Gilets jaunes, quand on a mis des bacs parfois avec un flashball entre les mains, des fois ça ne l'utilise pas au bon moment. Un CRS et un gendarme mobile ne le fera pas de la même manière.
Puisqu'on parle de maintien de l'ordre, qui sont-ils là, ces hommes et ces femmes engagés aujourd'hui? On parle beaucoup des braves, ce sont eux là qu'on aperçoit?
Alors il y a plusieurs types d'effectifs qui sont engagés. Il y a les unités de force mobile, ce dont parle Karim, c'est-à-dire les spécialistes du maintien de l'ordre qui ne font que ça, effectivement, les CRS et les gendarmes mobiles. Et puis les braves dont on parle régulièrement et depuis en fait les Gilets jaunes, puisque c'est apparu au moment des Gilets jaunes. Ça s'appelait au début les DAR et puis c'est devenu les braves. C'était des effectifs, effectivement, au début qui avaient été pris dans des unités dont ce n'était absolument pas le métier. Donc on prenait les BAC, les BRI, des gens qui étaient dans l'anticriminalité et dont ce n'était pas du tout le métier. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'utilisation du flashball qui n'était pas conforme à la doctrine du maintien de l'ordre des CRS et des gendarmes mobiles. Désormais, les braves, ces unités qu'on conçoit comme étant extrêmement mobiles pour aller à l'intérieur du cortège, attraper les casseurs et les sortir du cortège et les interpeller. Ces unités, elles sont professionnalisées, c'est-à-dire qu'elles appartiennent vraiment à la DOPC, à la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation, et désormais est spécialisée pour intervenir dans ces manifestations. Donc on n'est plus du tout sur le même concept qu'au début des Gilets jaunes.
Jeanne Cancard, dans le cortège, on avait l'impression que le cortège repartait.
C'est les braves avec des compagnies d'intervention.
On avait l'impression, Jeanne, que le cortège repartait, puis finalement c'est un pas en avant, trois pas en arrière.
C'est un petit peu ça, Nelly. Même si là, on sent que le pas, eh bien, il s'accélère très nettement, que les forces de l'ordre, eh bien, veulent faire avancer ce cortège qui est maintenant bloqué ici depuis plusieurs dizaines de minutes. Il y a les forces de l'ordre, en fait, pour tout vous dire, qui ont fait, comme si vous voulez, un mur, un barrage pour tenter, eh bien, de procéder à plusieurs interpellations. On en a vu quelques-unes sous nos yeux. Alors, forcément, dans les moments, dans les périodes comme ça, comme là, ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, des moments où les forces de l'ordre tentent de faire avancer le cortège, eh bien, c'est à ce moment-là, souvent, que les tensions éclatent, que ceux qui ne veulent pas sortir et qui veulent rester sur ce point, parce que finalement, ces Black Blocs, eh bien, ils ont bien pris maintenant possession des lieux. Ils ont leurs projectiles à disposition. Ils veulent donc rester ici pour l'instant et ne pas partir, ne pas avancer. Donc on le voit, il y a plusieurs charges des policiers qui ont eu lieu pour tenter de faire avancer le cortège. Parce qu'il faut quand même s'imaginer, se rappeler que derrière là où nous sommes, il y a plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui attendent justement pour
qui attendent justement pour pouvoir avancer, qui pour le moment n'ont pas pu rejoindre Bastille et qui sont toujours bloqués. Alors forcément, ça commence à faire longtemps, près d'une heure maintenant, que certains sont toujours bloqués à République. Alors les forces de l'ordre tentent de faire avancer dans un premier temps ce qu'on appelle les phrases de prévention finalement, où ils demandent calmement et puis au bout de plusieurs sommations où il y a des charges, soit pour éparpiller avec aussi l'aide de bombes lacrymogènes, soit pour procéder à des interpellations. Mais là, clairement, ce que les manifestants qui sont un petit peu égarés et qui tentent de rejoindre le haut du cortège, qui nous disent, eh bien, c'est qu'ils se sentent dépossédés de leur mobilisation, de leur manifestation.
Ouais, merci beaucoup. C'est un peu le message qu'on entend sur ce plateau, Jean Messia, encore et encore.
Oui.
On imagine la frustration aussi. Il doit y avoir des commentaires quand même de la part
tout
des manifestants.
Tout à fait. Et je pense que la question qu'on ne s'est pas posée aussi, c'est le quid du jour d'après. C'est-à-dire, est-ce que Emmanuel Macron et le gouvernement vont entendre la colère massivement exprimée aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir d'autres manifestations à la suite de cette manifestation-là?
On voilà, imagine que c'est... oui, quand même.
Pardon?
On imagine que oui, en tout cas, dans un
voilà,
premier
donc,
temps.
Voilà, en tout cas, la question du jour d'après se pose, et je pense qu'Emmanuel Macron et le gouvernement, qui ont depuis, évidemment, ce matin, suivent avec attention le degré de mobilisation, voyant, si vous voulez, ces masses partout en France, la question qui va se poser, c'est comment vont-ils infléchir leur point de vue sur cette réforme? Est-ce qu'ils vont l'infléchir ou est-ce qu'ils vont encore s'entêter et passer outre comme si de rien n'était?
Ça fait trois heures, juste pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, Karim, ça fait trois heures que le cortège, quasiment trois heures que le cortège était censé s'élancer. De fait, il est parti avec un petit peu de retard et on a accompli, allez, en tout et pour tout... moins d'un kilomètre, c'est la distance à peu près qui sépare, on dira, la place de la République de la place de la Bastille, où le cortège n'est même pas vraiment arrivé place de la Bastille. Vous le voyez, on l'aperçoit, hein, la colonne tout au fond de l'écran. Karim, je vous laisse commenter l'image également.
Oui, oui, non, mais on voit effectivement énormément de monde. Et la question qui se pose à la fin de cette journée, c'est est-ce que la grogne sociale, le mécontentement des Français face à cette réforme, est-ce que la colère donc des salariés, des travailleurs qui estiment que cette réforme est injuste, contrairement à ce que prétend le gouvernement, est-ce que cette grogne va pouvoir s'inscrire dans la durée? C'est ça la vraie question. Qu'il y ait une autre manifestation après celle qu'on vient de vivre aujourd'hui, assurément il va en avoir une, puisque c'est réussi. Mais la question, c'est pas de faire du one shot une ou deux fois, c'est de s'inscrire dans la durée pour faire couler le gouvernement.
95, cinq semaines.
Je m'en souviens parfaitement
blocage.
Bien, parce qu'à l'époque, j'étais un autre Karim Zeribi, j'étais délégué syndical, j'étais dans la rue, et par millions, nous avions fait reculer la réforme Juppé, et avec perte et fracas pour le Premier ministre qu'il était à l'époque. Donc non, aujourd'hui, ce qui se pose, c'est est-ce que le mouvement social dans notre pays va pouvoir s'inscrire dans la durée avec un tel niveau de mobilisation? Si c'est le cas, alors le gouvernement devra... peut-être pas retirer la réforme, mais au moins l'ajuster, la rendre plus juste aux yeux des Françaises et des Français. Parce que le paradoxe des sondages, c'est que 61% des Français se disent contre cette réforme. Mais par ailleurs, il y a d'autres sondages qui disent que 50% des Français estiment qu'une réforme est nécessaire. Ça veut dire, cette réforme, on n'en veut pas, mais on n'est pas contre l'idée d'une réforme plus juste, oui. Parce que notre système de retraite par répartition, nous voulons le sauver.
Quand vous parlez d'ajustement, Laurent Berger, pour la CFDT, qui n'est quand même pas le plus virulent
du syndicat
d'ordinaire, il a dit... Nous, c'est l'âge de départ.
Il a mis des marqueurs.
On n'en veut pas. On ne veut pas de recul.
Exactement. Il ne discutera pas si, effectivement, ce marqueur-là qu'il a posé n'est pas levé par le gouvernement. Moi, je vais vous dire, le gouvernement est dans une situation qui est très compliquée dans le contexte. Parce que, sur le plan économique, vous avez une inflation qui pénalise les Français et même les Français classe moyenne qui ont peur d'être déclassés. Sur le plan social, cette réforme est rejetée en bloc. Sur le plan régalien, le gouvernement, on sait que ce n'est pas son fort. Les questions de sécurité et de justice sont fréquemment contestées. Ça veut dire que sous... je dirais le spectre de la vie politique de notre pays, on a un gouvernement qui risque de se retrouver en difficulté.
Retour, et avant de se quitter, parce que c'est Laurence Ferrari qui prendra la main d'ici quelques minutes, Pascal, retour en image à ce qui se passe là. On est à un point statique, là, sur la caméra de droite, avec ce fameux barrage que vous décriviez bien tout à l'heure. Moi, j'ai une question quand même sur cette image qu'on aperçoit fréquemment. Qu'est-ce qui se passe lorsque les colonnes de braves, notamment, remontent le long des trottoirs, le long des immeubles, à petits pas accélérés? Qu'est-ce que c'est cette technique-là?
Alors, il y a dans la technique de maintien de l'ordre ce qu'on appelle du jalonnement. extrêmement dynamique, c'est-à-dire des unités qui jalonnent sur les latéraux de manière à canaliser l'espace. Sur les braves, c'est des unités, vous l'avez dit tout à l'heure, qui se sont additionnées aux forces traditionnelles de maintien de l'ordre, CRS, gendarmes mobiles, pour être dans la fulgurance et la spontanéité de l'interpellation. Donc c'est des unités qui sont mobiles et quand elles longent les immeubles comme ça, c'est qu'en général, par l'état-major, on leur a désigné une zone de tension où ils doivent monter à l'interpellation.
Alors là, pour l'instant, on aperçoit quand même quelques... je ne sais pas si ce sont des fumigènes ou des gaz lacrymogènes, mais on est toujours devant cette brasserie. C'est la même qu'on aperçoit depuis presque une heure, à vrai dire, signe qu'on n'a pas du tout bougé, on n'a pas avancé d'un iota.
Je pense que ça a avancé parce qu'il y a eu un autre angle de vue à un moment où on voyait effectivement les forces de l'ordre telles qu'on les a vues tout à l'heure, et vous le disiez.
Qui étaient devant cette brasserie.
On voit qu'ils sont en fait très proches de Bastille, sur un autre angle de vue en fait, donc ça a avancé un peu.
C'est aussi une difficulté de l'ordre public, c'est que c'est non seulement du maintien de l'ordre, mais c'est de la gestion de flux. L'espace est devenu aujourd'hui l'enjeu des mobilisations.
Mais nos équipes nous disent quand même sur le terrain qu'elles ont très peu avancé. Au fond, et en guise de conclusion, c'est l'image qu'on retiendra malheureusement de cette journée. Jean Messia, Karim Zeribi, sur la partie message envoyé. Est-ce que ça distille, est-ce que ça véhicule comme idée ?
Oui, alors c'est dramatique à dire, mais je pense que la question sécuritaire est venue un petit peu à la rescousse du gouvernement, en quelque sorte. C'est-à-dire que encore une fois, les Français n'aiment pas voir le désordre dans la rue, n'aiment pas voir ces scènes de violence, notamment à l'égard des policiers, etc. Et effectivement, le gouvernement, je pense que son seul salut, c'est de compter finalement sur la désagrégation potentielle de ce mouvement sous les coups de boutoir des problématiques sécuritaires pour essayer de sauver la face et de dire, voyez, c'est moi ou le chaos. C'est oui. la fameuse phrase du gouvernement qui trouve ici un terrain d'application un peu inattendu, mais enfin, voilà. Et je pense que il appartiendra aux organisateurs et aux mécontents de maintenir, si vous voulez, la justesse de leur cause indépendamment de la problématique sécuritaire.
Karim Zeribi, le mot de la fin, vraiment, en 30 secondes.
Non,
si
moi je crois que si le niveau de mobilisation reste très important, le gouvernement aura une double difficulté aux yeux des Français. Des Français mécontents de la question sociale et économique et un gouvernement incapable d'assurer la sécurité et la tranquillité, ça sera un double revers pour le gouvernement.
On reste dans ce cortège que vous suivrez désormais avec Laurence Ferrari et ses invités. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que le cortège ne progresse pas très vite du côté de la place de la Bastille et qu'il y a donc ces éléments perturbateurs qui ont déjà causé quelques soucis aux forces de l'ordre, mais la situation est à peu près sous contrôle à l'heure où l'on se parle. Merci à tous nos invités. Excellente soirée en notre compagnie.